France Inter.
Le 13-14, Amélie Perrier.
Bonjour à tous, bienvenue dans le 13-14, au sommaire aujourd'hui. Fini de se cacher derrière son ordinateur ou son smartphone, au procès des cyber-harceleurs de Brigitte Macron, l'homme derrière le pseudo Zoé Sagan répond de ses messages à la barre. Il est accusé d'être l'un des principaux maillons de cette rumeur qui a conquis jusqu'aux Trumpistes aux États-Unis. Ni hard, ni light, Marine Le Pen ne veut pas entendre parler de la taxe Zuckman, ni de sa version allégée, elle le dit ce matin à l'Assemblée nationale. Quand dans le même temps, le patron de Doctolib, fleuron de la tech française, se dit d'accord pour payer davantage d'impôts quand on est très fortuné. Et dans le même temps, les députés se penchent sur nos tickets resto et nos chèques vacances pour renflouer les caisses de la Sécu. Proposition retoquée en commission, mais où va-t-on trouver l'argent manquant? Déjà 3 morts en Jamaïque et le plus gros de l'ouragan Mélissa n'est pas encore passé. Tempête monstre, jamais l'île des Caraïbes n'a été confrontée à un phénomène de cette puissance. Le dérèglement climatique, avant la COP30, les États publient leurs engagements pour réduire leurs émissions polluantes, Sandy Dauphin.
Oui, et d'après un nouveau rapport des Nations Unies, il y a du mieux, de quoi entrevoir enfin une baisse des émissions mondiales de CO2, mais pas assez pour respecter l'accord de Paris.
Les bonbons d'Halloween, plus chers que les sucreries vendues le reste de l'année, tremblez gourmands. Quand d'autres, à la Toussaint, s'occupent des tombes de votre famille pour vous, c'est le nouveau métier d'Olivier Ranvé.
Il y a énormément de demandes de toute façon, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont partis, qui ont leurs familles qui sont enterrées sur la région. On envoie les photos, où le travail est fait et puis ils sont contents parce qu'il est
À 13h30, une autrice est notre invitée aujourd'hui. Maïram Guissé signe Sous nos peaux, histoire de femmes noires reléguées au second plan, victimes de racisme ordinaire. Venez dialoguer avec nous au 01 45 24 7000. Et Cyril Petit nous parlera d'amour et d'anniversaire de mariage quand Frédéric Pommier nous jouera Si Norman, le morceau de Nina Simone. C'est le choix du photographe Jean-Luc Bertini. Vous avez le menu à table.
France Inter.
On les appelle les trolls sur les réseaux sociaux. Ces internautes inondant d'insultes, de menaces et de propos tombant sous le coup de la loi, des personnalités publiques le plus souvent. Parmi les plus suivis se compte Zoé Sagan, un faux nom, pour un homme qui se retrouve aujourd'hui devant le tribunal parce qu'il est accusé d'avoir cyberharcelé la première dame, Brigitte Macron, d'avoir alimenté cette fausse information sur sa transidentité. Une rumeur devenue virale jusqu'aux États-Unis dans les sphères trumpistes. Jean-Philippe Degnaud, vous suivez le procès devant le tribunal correctionnel de Paris. Bonjour.
Bonjour.
Zoé Sagan, de son vrai nom Aurélien Poisson Atlan, s'est expliqué pour la première fois à la barre.
Oui, ce qui est pratique avec les pseudos, c'est qu'on peut parler de soi à la troisième personne. Alors à la barre, Aurélien Poisson n'a pas assez de superlatifs pour évoquer Zoé Sagan, la première intelligence artificielle du 21e siècle. Un génie comparable à Elon Musk, dit-il. J'ai créé un phénomène de société, un cirque shakespearien, en ayant l'intuition que ce serait un phénomène mondial. J'ai inventé l'infofiction. D'ailleurs, l'écrivain a déjà écrit la pièce de théâtre de son procès, dont il offre un exemplaire au président. Une œuvre cyberpunk contre la dictature, la démocrature et la censure des élites, prévient-il en préface. Alors, c'est assez compliqué pour le tribunal de ramener Zoé Sagan à la réalité des tweets qu'Aurélien Poisson a publiés et dont il balaye la notion de harcèlement. C'était du mauvais goût, mais Flaubert et Baudelaire ont fait la même chose, affirme le prévenu. Le raz-de-marée de haine, il est contre moi, la victime, c'est moi. Je suis un artiste qui pose des questions. Et aujourd'hui, je risque d'aller en prison pour une seule phrase. Sujet, verbe, complément, point. Une folie pure. Je suis l'idiot utile d'une Macronie qui a développé une paranoïa sociétale, conclut Aurélien Poisson, espérant finalement qu'à l'issue de son procès, il pourra récupérer le compte de Zoé Sagan qu'il ne peut plus utiliser.
Jean-Philippe Degnaud au tribunal judiciaire de Paris. Brigitte Macron, elle est absente de l'audience. Les réquisitions contre les 10 prévenus sont attendues en fin de journée. Le jugement devrait être ensuite mis en délibéré. Les tickets resto, oui, ceux dont vous vous servez en ce moment pour payer votre déjeuner. Au menu également, des discussions des députés en commission à l'Assemblée nationale. C'est l'examen du projet de loi de finances de la Sécurité sociale. Les députés se sont prononcés contre la création d'une cotisation patronale sur ces tickets resto et sur les chèques vacances. Bonjour Claire Chaudière.
Bonjour à tous.
La cotisation destinée à faire rentrer de l'argent dans les caisses de la Sécu, finalement retoquée en commission.
Oui, et la mesure censée rapporter près d'1 milliard d'euros dans les caisses de la Sécurité sociale a d'ailleurs vite fait la quasi-unanimité contre elle. Deux poids, deux mesures, mesure anti-pouvoir d'achat, qu'il s'agisse des vacances des salariés modestes ou des repas du quotidien. C'est à gauche que les critiques ont été les plus virulentes, écoutez.
Je rappelle quand même qu'il y a 16% des Français qui sont en insécurité alimentaire. Et les tickets restaurants, si vous allez dans les magasins, si vous allez dans les boulangeries, etc., ils sont utilisés quand même par beaucoup des salariés pour arriver à manger correctement.
Si c'était pas si triste et pathétique, ça pourrait presque être drôle. Tout le monde est d'accord pour effectivement dire que c'est une mauvaise idée.
L'écologiste Hendrik Davik, vous venez d'entendre, suivi de la socialiste Sandrine Runel, bientôt rejoint par des voix sur les bancs de la droite LR et du RN. Timide défense de la mesure par le macroniste Michel Lozana au nom d'un certain pragmatisme.
Moi, je suis plutôt pour cet amendement parce qu'on a besoin d'argent et que je ne perds pas de vue que nous avons quand même une dette sociale importante.
Mais ça ne suffira pas. La proposition du gouvernement est donc retoquée lors du vote. On repartira bien d'une feuille blanche en séance la semaine prochaine. Mais il y a vraiment très peu de chances que cette mesure passe.
Et ces tickets resto, Claire, c'est une mesure parmi un certain nombre d'autres qui ne rapporteront rien. Donc, et ça va finir par poser un souci d'équilibre budgétaire.
Et oui, l'effort supplémentaire qui devait être demandé aux complémentaires santé, par exemple, retoqué hier lui aussi, c'est 1,2 milliard de nouvelles recettes qu'il faut rayer. Une mesure de gel de la CSG aussi était annulée du texte. Déjà plusieurs milliards de déficits donc par rapport aux prévisions de l'exécutif. Et cela pourrait continuer de déraper car de l'aveu de la plupart des participants à ces discussions, la mesure de l'année blanche, cette mesure qui prévoit de geler les prestations sociales et les pensions de retraite en 2026, eh bien cette mesure a aussi du plomb dans l'aile.
Bien, merci Claire Chaudière. En ce qui concerne le budget général de l'État, les débats se poursuivent là dans l'émission. Et à notre micro ce matin, voici un PDG d'une entreprise de la tech, Doctolib, fleuron français, qui se prononce pour davantage de justice sociale et fiscale. Et pourquoi pas la taxe Zuckman, cet impôt sur les très hauts patrimoines. Stanislas Gnoc-Château, fondateur et patron de Doctolib.
Je pense qu'il faut de la justice sociale. Je suis désolé de le dire et peut-être à contre-courant, mais je pense que ça ne sert à rien à des gens d'avoir autant d'argent pour vivre. Je pense que la philanthropie, elle est largement sous-développée en France. Par contre, je pense qu'il ne faut pas déposséder les entrepreneurs, les familles françaises de leur entreprise, quelle qu'elle soit, quelle que soit la taille de ces entreprises, parce que je pense que la souveraineté française, elle est là. Elle est que des familles, des entrepreneurs comme moi, ils partent de rien et ils créent des technologies et des IA qui peuvent concurrencer les Américains et les Asiatiques et avec une éthique qui est différente. Non, moi, je ne pars pas à l'étranger. J'ai 3 enfants ici, bientôt 4. Je suis très heureux d'être en France et j'adore la France. Et on a créé des milliers d'emplois en France et on va continuer de le faire. Donc moi, j'ai pas du tout prévu de partir.
Le PDG de Doctolib, Stanislas Gnoc-Château, il répondait à Alexandra Bensaïd ce matin sur Inter. En tout cas, avant le débat demain dans l'hémicycle sur cette taxe Zuckman et sa version allégée proposée par les socialistes, Marine Le Pen annonce ce matin que son groupe RN s'y opposera, y compris dans sa version remodelée. Ni light, ni hard, ni rien du tout, a-t-elle dit à l'Assemblée. Elle estime même que la seconde version des socialistes est aggravée car elle toucherait beaucoup plus de personnes que la précédente en visant les fortunes à partir de 10 millions d'euros et plus 100 millions, même en excluant les entreprises innovantes et familiales. Le gouvernement, lui, vit en sursis sous la menace d'une motion de censure et près d'un an et demi après la dissolution de l'Assemblée nationale, l'instabilité politique est devenue un sujet de préoccupation pour les Français. Le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, a dressé son rapport annuel et la situation politique du pays se place désormais haut dans les sujets d'inquiétude des Français, très loin devant l'immigration, par exemple, nous confirme Thierry Baudet, le président du CESE.
Nous savions qu'il y avait une défiance des Français vis-à-vis de la classe politique, mais là, ça a atteint un niveau qui est assez inédit. Il faut dire que les Français ont vu se succéder 3 nouveaux premiers ministres en un an, qu'au moment où nous parlons, les incertitudes demeurent quant au projet de loi de finances 2026, et pendant ce temps-là, ils considèrent que les politiques ne parviennent pas à répondre à leurs enjeux du quotidien, qui demeurent leur priorité absolue, leur santé, celle de leurs proches et leur pouvoir d'achat. Donc à la fois, il y a une défiance vis-à-vis de la classe politique, mais aussi une attente. Ils attendent des politiques publiques qui répondent à leurs besoins et qui doivent notamment viser le renforcement de l'égalité des chances pour les personnes que nous avons interrogées. Le renforcement de l'égalité des chances doit être un objectif prioritaire pour les pouvoirs publics.
Le président du CESE, Thierry Baudet, joint par Antoine Comte. C'est un sujet qui peut paraître lointain, mais qui pèse lourd dans le jeu politique aujourd'hui. La Nouvelle-Calédonie, elle pourrait avoir coûté son ministère à Manuel Valls, qui pourtant avait réussi à ramener toutes les parties autour de la table. L'Assemblée nationale doit valider cet après-midi le report des élections provinciales. Au Sénat, ce sera demain. Elles devaient avoir lieu, ces élections, dans un mois, mais le gouvernement voulait plus de temps pour finaliser et mettre en œuvre l'accord de Bougival sur l'avenir institutionnel de l'archipel. Bonjour Jérôme Val.
Bonjour.
Mais ce report ne plaît pas aux indépendantistes.
Ben oui, parce qu'ils estiment qu'il est enfin temps de voter. Le scrutin a déjà été reporté à deux reprises depuis 2019. À cause du Covid ou des émeutes meurtrières de 2024, les indépendantistes dénoncent une nouvelle manœuvre, un coup de force, alors que cette fois, rien n'empêche les Néo-Calédoniens de se prononcer comme prévu en novembre pour le député de la France Insoumise, Bastien Lachoux.
Toutes les conditions sont réunies pour que les Calédoniens puissent se prononcer, qu'ils puissent élire un congrès représentatif qui pourra reprendre les discussions avec une légitimité renouvelée.
Mais les partisans du report eux estiment qu'il faut encore donner du temps au dialogue. C'est ce que prévoit l'accord de Bougival, le député LR Philippe Gosselin.
Je crois que les enjeux dépassent évidemment les dates, donc il faut donner du temps au temps. Si le calendrier doit bouger de quelques mois, ben il bougera de quelques mois parce qu'il est important de ne prendre personne frontalement.
Mais voilà qui ne devrait pas apaiser la situation. Sur place, craint le camp indépendantiste, le souvenir des violences de l'année dernière, 15 morts en quelques semaines, reste douloureux. Dominique Fauchy est membre du bureau politique du FLNKS.
Les causes produisent les mêmes effets. Aujourd'hui, l'État reproduit les mêmes méthodes et on a peur que cette méthode nous fasse revenir à ce qu'on a connu l'année dernière.
Alors, s'il est adopté, le texte sera promulgué au mieux la semaine prochaine, mais l'accord de Bougival a déjà pris du retard.
Merci Jérôme Val, service politique de France Inter. Dans le calendrier parlementaire également, on apprend ce matin que la loi sur la fin de vie sera de nouveau débattue en février à l'Assemblée nationale. C'est la volonté du ministre des Relations avec le Parlement. Le texte a été adopté en première lecture à l'Assemblée en mai dernier. Il devra être discuté au Sénat avant de revenir donc au Palais Bourbon.
France Inter, le 13-14, Amélie Perrier.
Que restera-t-il de la Jamaïque après le passage de Mélissa ? L'ouragan monstre pourrait être le plus violent à toucher terre sur l'île des Caraïbes. Des vents destructeurs jusqu'à 280 km/h. Un ouragan de catégorie 5, le plus haut niveau de dangerosité. Les autorités s'attendent à des inondations, des glissements de terrain catastrophiques. Le premier ministre jamaïcain disait même ce matin que selon lui, aucune infrastructure de la région ne pourrait résister à Mélissa. Bonjour Nathanaël Charbonnier.
Bonjour.
1,5 million de personnes pourraient être touchées, hein, selon la Croix-Rouge.
Oui, c'est un ouragan qui fait peur car il va passer au-dessus de la Jamaïque et que les prévisionnistes météo expliquent que les vents qui pourraient souffler pourraient atteindre les 350 km/h. On sait que l'œil du cyclone fait à peu près 18 km et que la pression relevée tourne autour des 900 hectopascales, ce qui est très bas, de quoi inquiéter les autorités. Car elles savent que les habitations sur l'île ne sont pas solides et que peu pourront résister à la violence annoncée. Conséquence, eh bien, il est demandé à la population de se protéger, d'évacuer les zones à risque. Le Centre américain des ouragans anticipe des bourrasques potentiellement mortelles. Il s'attend à des inondations et des ravages d'une ampleur comparable à ceux causés par les ouragans Maria en 2017 et Katrina en 2005. Souvenez-vous, c'était à Porto Rico et en Louisiane à la Nouvelle-Orléans. Autre souci pour les autorités, combattre les fake news. Des vidéos générées par l'intelligence artificielle circulent et sèment le doute avec un paradoxe. C'est que la population à l'arrivée est moins bien informée, malgré un afflux d'informations comme jamais.
Merci Nathanaël Charbonnier. En Asie, le Vietnam, sous les pluies diluviennes, plus d'un mètre de précipitation tombait en 24 heures. L'ancienne cité impériale de Hue, dans le centre du pays, s'est retrouvée submergée. Des milliers d'habitants ont été évacués. Des phénomènes climatiques de plus en plus intenses. Les scientifiques s'accordent pour pointer du doigt le lien avec le dérèglement climatique. Ils se retrouvent dans moins de deux semaines au Brésil pour la COP30, la conférence des Nations Unies sur le climat, et l'heure est aux promesses pour les États. Ils présentent leur plan pour réduire leurs émissions carbone. Et si tous ces engagements sont respectés, Sandy Dauphin, vous nous avez rejoint, notre spécialiste environnement, si toutes les promesses sont tenues, donc, les émissions de gaz à effet de serre vont effectivement baisser, Sandy, mais baisser suffisamment ?
Alors, si toutes les promesses des pays sont respectées, les émissions de gaz à effet de serre pourraient baisser de 10% d'ici 2035. La bonne nouvelle, c'est que c'est la première fois qu'on entrevoit une diminution mondiale des émissions. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'est pas du tout dans les clous pour respecter l'accord de Paris, surtout son objectif le plus ambitieux, limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré. Pour cela, il faudrait une baisse de 60% des émissions entre 2019 et 2035, selon le GIEC. Autre bémol, ce rapport des Nations Unies n'a pas pu évaluer la totalité des nouveaux plans climat nationaux. Tous les 5 ans, chaque pays doit en effet remettre à l'ONU un plan réactualisé avec un objectif de baisse de CO2 et les mesures qui vont avec pour y parvenir. Sauf que, seuls 64 États ont rendu leur copie à temps. Parmi les retardataires, 2 gros pollueurs, l'Europe et la Chine. Et pour compliquer le tout, les États-Unis avaient déposé leur plan climat juste avant le départ de Joe Biden et l'arrivée de Donald Trump. Autant dire qu'aujourd'hui, il est obsolète. L'ONU dit avoir intégré les reculs des États-Unis et les avancées de la Chine pour calculer son évaluation.
Merci Sandy Dauphin, Service Sciences, Santé, Environnement. À l'étranger, encore un tournant dans la guerre au Soudan, l'une des pires catastrophes humanitaires au monde. La grande ville d'El Fasher vient de tomber aux mains des paramilitaires. Elle était le dernier bastion échappant encore au contrôle des forces de soutien rapide, les FSR, en guerre depuis 2 ans et demi contre l'armée. L'Union africaine dénonce ce matin des atrocités et des crimes de guerre possiblement perpétués dans El Fasher. Et désormais, Valérie Crova, les paramilitaires contrôlent l'ensemble du Darfour.
La prise d'El Fasher, la capitale du Darfour du Nord, marque un tournant majeur dans la guerre que se livrent depuis plus de 2 ans les paramilitaires des FSR et l'armée régulière du général Bourane. Elle acte de facto la partition du Soudan. L'étau autour de la ville s'était resserré au mois d'août après qu'un gouvernement parallèle a été installé dans la ville de Niala, dans la partie sud du Darfour, déjà sous contrôle des forces de soutien rapide. Ces dernières peuvent désormais revendiquer une continuité territoriale. La région du Darfour est aussi grande que la France. Le contrôle d'El Fasher par les FSR fait craindre le pire. Issu des milices arabes Janjaweed, un rapport d'experts mandaté par les Nations Unies leur attribuait en septembre dernier des massacres, des viols, des pillages, ainsi que des campagnes de nettoyage ethnique ciblant principalement les communautés non-arabes.
C'est une page sombre et méconnue de l'histoire de France cette fois. Le sort d'enfants harkis morts dans des camps de réfugiés et enterrés sans sépulture ensemble à Saint-Maurice-l'Ardoise. Étape importante pour leur famille aujourd'hui, des prélèvements ADN ont été effectués dans le cimetière pour tenter d'identifier les restes. Ici, 27 sépultures d'enfants ont été retrouvées il y a 2 ans, mais sans nom, que des numéros. Anouk Caron, ces analyses sont très importantes pour les descendants de harkis que vous avez rencontrés.
Ces prélèvements ADN sont une véritable source d'espoir pour Chérifa, descendante de Harki. L'une de ses cousines est enterrée dans le cimetière de Saint-Maurice-l'Ardoise.
Ça représente la possibilité de nommer quelqu'un qui avait été laissé pour compte. C'est faire parler les morts pour trouver un apaisement futur pour les vivants.
Comme tous les enfants enterrés dans ce cimetière, sa cousine n'a pas de tombe individuelle. Son nom est inscrit sur une stèle avec celui des autres décédés. Elle s'appelait Tassadit et est morte dans un camp dans les années 60 à l'âge de 2 ans.
Ce que je sais de cette petite fille, je sais la douleur de ses frères, en fait, d'avoir perdu leur petite sœur. Mais je sais guère plus, finalement.
Ces analyses génétiques représentent donc beaucoup pour sa famille et ils ont aussi une autre dimension.
Ça témoigne aussi de l'intérêt et de l'importance pour l'État français de reconstituer cette histoire qui est peu glorieuse.
Un avis partagé par Nadia Guafria, présidente de l'association Soraya, pour la mémoire des enfants d'anciens combattants harkis décédés dans les anciens camps.
C'est une réparation de la mémoire. On a été écoutés, on a été entendu, parce que souvent on écoute mais on ne nous entend pas.
Et avec ces prélèvements ADN, les familles espèrent aussi qu'elles pourront se recueillir sur des tombes décentes où reposeront leurs défunts.
Anouk Caron d'ici Gare-Lozère. Une première mondiale signée l'INSERM. Une équipe de chercheurs vient de réussir à visualiser dans le détail la micro-circulation sanguine dans un organe entier grâce à une sonde d'échographie de toute nouvelle génération. Les performances de cet écho se rapprochent de celles des IRM et c'est un pas immense pour la médecine.
Alors que les techniques d'échographie actuelles permettent par exemple de voir un bébé en 3D dans le ventre de sa mère, ici, explique Clément Papadacci, chercheur à l'INSERM, l'un des auteurs, ici on peut carrément parler de vision en 4D. La quatrième dimension, c'est la vision de la circulation sanguine dans le temps au travers d'un organe entier.
Si on imagine le réseau vasculaire du rein, c'est comme un arbre. Et dans cet arbre, on voit comme si on voyait le sang qui circulait et on peut mettre de la couleur à ce sang, par exemple les veines en bleu, les artères en rouge, et donc on voit ce sang qui bouge à l'intérieur des artères et des veines.
L'innovation, c'est que les ultrasons, les ondes qui permettent l'échographie, sont projetées vers les organes de façon différente. C'est cela qui permet de voir des vaisseaux sanguins minuscules, jusqu'ici invisibles, ce qui est très prometteur en médecine.
Voir les petits vaisseaux, c'est remonter le temps de la maladie, parce que la maladie, elle démarre souvent par une dégénérescence des petits vaisseaux. Donc être capable de les voir, c'est être capable de diagnostiquer de manière plus précoce.
Ce dispositif non-invasif a pour l'instant été testé sur des organes animaux, cœur, poumons, reins, et des tests cliniques chez une quarantaine de patients sont prévus en début d'année prochaine.
La vérité, toute la vérité, c'est la promesse d'Elon Musk, le mania de la tech, qui vient de mettre en ligne Grokipédia, son encyclopédie en ligne, concurrent direct de Wikipédia, elle aussi gratuite. Nous, on l'a testé, enfin c'est vous Stéphane Jourdain, bonjour.
Bonjour.
C'est vous qui avez joué au jeu des 7 différences avec Wikipédia, alors verdict ?
Oui, alors jeu des 7 différences niveau débutant, hein. Prenons la fiche d'Elon Musk. Sur Wikipédia, 3 paragraphes sur son salut interprété comme nazi lors du meeting d'investiture de Donald Trump. Mais sur Grok, l'épisode est tout simplement passé sous silence. Sur Donald Trump, alors que Wikipédia s'attarde sur ses conflits d'intérêts, comme les crypto-monnaies qu'il a lancées en arrivant à la Maison-Blanche, Grokipédia, lui, n'en dit pas un mot. Autre exemple, les violences policières. George Floyd, dont la mort étouffée par un policier avait provoqué d'immenses manifestations antiracistes aux États-Unis. Grokipédia choisit de le présenter d'abord comme un Américain au long casier judiciaire condamné pour des vols à main armée. C'est même la première phrase. Plus près de chez nous, notons que la députée écologiste Sandrine Rousseau passionne Grokipédia, sa fiche est 10 fois plus longue que sur Wikipédia.
Alors Grokipédia représente-t-il une véritable menace pour Wikipédia, un concurrent sérieux ?
Alors oui et non, oui parce qu'Elon Musk met toute sa puissance au service de ce projet et ça va très vite. Presque 1 million d'articles en anglais fabriqués par son IA en quelques jours contre 7 millions par les contributeurs de Wikipédia en 25 ans. Non, car beaucoup de ces fiches sont en fait des ressucés de Wikipédia, c'est même précisé en haut des articles. D'ailleurs, le vrai danger pour Wikipédia, c'est moins Elon Musk que l'IA en général, qui dévore et recrache ses articles sans renvoyer vers le site.
Stéphane Jourdain du service culture écran de France Inter. Et voilà une vérité qui devrait vous faire faire la grimace quelques jours avant Halloween. Les bonbons spécial Halloween sont plus chers que les bonbons classiques. Pour les Dragibus, par exemple, le prix au kilo augmente de 43% quand vous achetez la version Halloween du paquet. Lou Bourdi, bonjour.
Bonjour.
C'est le résultat de l'étude de l'UFC Que Choisir publiée aujourd'hui.
Oui, l'Observatoire a tout simplement comparé des paquets de bonbons classiques avec ceux d'Halloween et le constat donc est clair. Les prix explosent. Écoutez Noah Baudouin de l'UFC Que Choisir chez nos confrères de France Info.
Quelque chose qu'on avait déjà observé l'année dernière et qu'on revoit cette année, c'est que vraiment les bonbons spéciaux Halloween qui sont faits donc par les grands industriels du secteur valent beaucoup plus cher. Si on regarde les prix au kilo, en fait, ils vont faire des paquets qui vont être un peu plus petits et un peu plus chers.
Alors, on vous donne un exemple très concret. Prenez un paquet de bonbons classiques avec à l'intérieur des nounours et des crocodiles, celui de la marque Haribo. Eh bien, pour Halloween, on les remplace par des chauves-souris et des citrouilles. Et là, d'un coup, ça vous coûtera beaucoup plus cher, plus 32% le prix au kilo. Ouais. Alors, est-ce que ça vous dissuade pour autant d'en acheter ? C'est pas sûr.
Non, je pense que oui, j'achèterai. Pour leur faire plaisir, oui. Même si c'est un petit peu plus cher, oui.
J'aime les bonbons chauves-souris.
Moi, trompette. C'est des petits bonhommes en bonbons.
Oui, je m'achète. Ouais. J'en ai en plus en bas, là.
Ah oui, vous adorez. J'adore. C'est pour vous, alors.
C'est pour moi et après pour les enfants qui vont venir sonner à la maison.
Mais s'il en reste. Exactement. Certains, quand même, refusent de payer plus cher. Écoutez.
J'aime pas parce qu'il y a trop de marketing, il y a trop de bonbons partout. Ben là, réunis, vous rentrez, il y a les chocolats de Noël et les bonbons, c'est trop.
Bah, mamie, elle en achète souvent, mais elle en achète moins parce qu'ils sont plus chers, elle a dit. Par exemple, pour ce Halloween, elle en a pas acheté.
Alors, de son côté, Haribo assure que l'étude n'a pas comparé des produits semblables et surtout qu'elle n'a pas pris en compte ses promotions d'Halloween.
Merci, Lou Bourdi. Halloween, c'est vendredi, la veille de la Toussaint. Autre célébration, vous serez nombreux à vous recueillir samedi sur la tombe de vos proches. Mais parfois, on habite loin, pas facile de venir au cimetière pour entretenir la dernière demeure de nos disparus. Alors, cette Ardennais Olivier Ranvé, ancien boucher charcutier, a monté son entreprise de nettoyage de sépultures. Sophie Allemand l'a rencontré en plein travail au cimetière d'Attigny.
Généralement, la première chose que je fais, c'est que j'enlève toutes les plaques.
Ce boucher charcutier en grande surface a dû se reconvertir il y a 3 ans suite à des problèmes de paralysie au bras droit.
Je suis resté un an à rien faire. J'ai eu des séances de kiné. Le médecin m'a dit bah, on ne peut pas faire grand-chose pour vous, donc il faut toucher une pension. J'ai dit non.
C'est en nettoyant la tombe de ses grands-parents que l'idée lui est venue.
La dame qui était à côté, qui était en train de nettoyer, elle m'a demandé si j'étais une société. Je lui ai dit non, elle m'a dit c'est dommage, j'aurais fait appel à vous. Il y a énormément de demandes de toute façon, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont partis, qui ont leurs familles qui sont enterrées sur la région. On envoie les photos où le travail est fait, et puis ils sont contents parce que les tombes sont entretenues. C'est un peu des lieux...
des lieux pas anodins.
Certaines fois, on est mandaté pour faire des jeunes enfants. C'est vrai que ça touche quand même.
Mais selon lui, tout le monde peut s'y mettre.
Nous, on utilise beaucoup de savon noir parce que c'est un des produits les moins agressifs et qui fait briller. C'est pas sorcier.
Mais il faut diversifier son activité.
Que le nettoyage, j'ai passé de demande. La restauration, la rénovation, oui, on commence à avoir plus de demandes.
D'ailleurs, il a un deuxième métier un peu plus brillant.
Je suis le ramassage scolaire pour les pio.
Vous êtes la moitié de l'année avec les morts et la moitié de l'année avec les...
Avec les vivants. Les métiers comme le mien, c'est pas commun.
Ouais, pas commun, effectivement. Pas commun non plus. Ce joueur de tennis qui, depuis un match contre son cousin en finale du Masters de Shanghai, attire beaucoup de regards. Valentin Vacherot, le monégasque des deux cousins, jouait ce matin son 32e de finale au Masters de Paris. Ça s'est terminé, il a gagné. On vous rejoint, Fabrice Abgral, à la Défense Arena. Bonjour.
Bonjour.
Valentin Vacherot s'est qualifié, il va nous refaire le coup de la cousinade.
Oui, et croyez-moi, Valentin Vacherot est toujours sur son nuage et il n'a pas l'intention de descendre après sa victoire au Masters 1000 de Shanghai il y a 15 jours. Et bien, le Monégasque a remporté aujourd'hui son tout premier match au Masters 1000 de Paris pour sa toute première participation. Lui qui bénéficie d'une invitation, une victoire expéditive pleine d'autorité pour Valentin Vacherot. Il s'est imposé en 2-7 face au 18e mondial, le Tchèque Jiří Lehečka. 6-1, 6-3 en moins d'une heure, 54 minutes très précisément. Et ironie du sort et clin d'œil du destin, et bien Valentin Vacherot affrontera demain au deuxième tour son cousin Arthur Rinderknecht dans ce qui constituera la revanche de la finale du Masters 1000 de Shanghai, remportée contre toute attente par le Monégasque. À l'époque, il était 204e mondial. Aujourd'hui, il est 40e. Mais sur ce qu'il montre actuellement, il évolue à un classement beaucoup plus élevé. Ce sera donc très compliqué pour Arthur Rinderknecht. Valentin Vacherot est vraiment irrésistible en ce moment. Et c'est très étonnant pour un joueur qui, avant Shanghai, n'avait remporté cette saison qu'un seul match sur le circuit professionnel. Mais à 26 ans, Vacherot produit un tennis en tout point remarquable. Les planètes sont alignées pour lui. Autant profiter.
Fabrice Abgral à Paris, la Défense Arena. On connaît désormais les finalistes du prix Goncourt. Ils sont quatre, c'est Natacha Apana avec La Nuit au cœur chez Gallimard, Emmanuel Carrère pour Colcause, Caroline Lamarche avec Le Bel Obscur au Seuil et Laurent Mauvignier avec La Maison Vide paru aux éditions Minuit. Le prix Goncourt 2025 sera attribué le 4 novembre prochain. Et puis un dernier salut enfin à un très grand virtuose de la batterie, Jack DeJohnette, et mort, il avait 83 ans. Jack DeJohnette, c'est le batteur historique de Keith Jarrett, de son trio mythique avec le contrebassiste Gary Peacock. Né à Chicago en 1942, il a posé sa rythmique aux côtés des plus grandes légendes du jazz, Miles Davis, John Coltrane, Stan Getz, Herbie Hancock, mais c'est surtout donc avec Keith Jarrett qu'il marquera l'histoire. Ici dans If I Should Lose You, nous on a perdu un artiste au talent rare. France Inter, il est 13h27, à suivre dans notre seconde partie des portraits de femmes noires sous nos peaux. Son autrice Mayram Guisset vient en parler avec nous en studio. Ces femmes qu'on ne voit pas, dont on parle peu, victimes de racisme à l'école, au travail ou auprès de leurs médecins. Mais pas question de régler ces comptes. Si vous voulez dialoguer, appelez-nous au 01 45 24 7000. Une semaine dans leur vie, on continue de repeindre les murs du centre de Dijon à la découverte de Banana Pchit, festival des arts urbains. Et puis Cyril Petit de West France, Frédéric Pommier, vous serez avec nous également. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Amélie.
Bonjour Amélie.
Cyril, on parle d'amour aujourd'hui.
Eh bien, de Lamballe Armor dans les Côtes d'Armor à Istres dans les Bouches-du-Rhône, en passant par Saint-Élif en Eure-et-Loire, je vous parle, Amélie, des anniversaires de mariage qui font la fierté locale.
Et vous, Frédéric, je dois vous l'avouer, c'est l'un de mes morceaux préférés que votre invité a choisi aujourd'hui.
L'invité s'appelle Jean-Luc Bertini, il est photographe et le morceau qu'on écoutera avec lui, ce morceau que vous aimez tant, Amélie, c'est Cinnamon de Nina Simone. Une chanson que Jean-Luc Bertini ne peut écouter sans pleurer.
Frédéric, Cyril, on se retrouve dans un quart d'heure à suivre la météo.
Salut, petites oreilles.
Il était une fois...
Mon petit France Inter.
Découvre Mon petit France Inter, la nouvelle radio rien que pour toi.
Une ribambelle d'histoire toute la journée.
Le trésor de Rackham le Rouge est à nous.
Adieu plancher des vaches, c'est parti.
C'est aussi l'histoire d'un
haricot magique
et ta musique préférée.
Laisse-moi te chanter.
Écoute Mon petit France Inter, ta radio sans publicité,
et embarque pour une journée pleine d'aventures et de découvertes.
Mon petit France Inter.
Nous, au moins, vos enfants nous écoutent.
Un forcené dans une école maternelle. Un négociateur du GIGN. Entre eux, le dialogue ne doit jamais s'arrêter. Clara Dupont-Monod, la confrontation. Après s'adapter, prix Goncourt des lycéens, prix Fémina, La Confrontation, le nouveau roman de Clara Dupont-Monod. La Confrontation, un roman Albin Michel. Le dialogue ne doit jamais s'arrêter.
France Inter, il est 13h30.
La météo avec TGV Inouï. Avec 200 destinations en France et vers l'Europe, découvrez que ce n'est pas l'automne partout.
Et la météo, c'est avec Sébastien Léas. Bonjour Sébastien.
Bonjour Amélie, bonjour à tous.
C'est très nuageux au nord et plus ensoleillé au sud aujourd'hui.
Oui, une perturbation peu active circule en ce moment entre les côtes de la Manche, les Hauts-de-France, le Grand Est jusqu'au Poitou, au Centre-Val-de-Loire et à la Bourgogne-Franche-Comté. Quelques gouttes peuvent se faire remarquer entre la Bretagne, la Normandie, la Lorraine et les Vosges, mais les pluies sont plus régulières sur les Hauts-de-France. En revanche, le ciel va avoir tendance à s'éclaircir sur l'extrême nord, au nord d'une ligne entre Lille et Boulogne-sur-Mer. L'après-midi sera plus partagé entre la Gironde, l'Auvergne et le Lyonnais jusqu'au Jura. Les nuages de la perturbation se morcelant en laissant apparaître des éclaircies. Et puis des Landes et des Pyrénées-Atlantiques jusqu'aux Alpes et aux régions méditerranéennes, le soleil brillera généreusement cet après-midi. Hormis sur le sud-ouest de la Corse où les nuages s'accumulent, les températures, elles, retrouvent des valeurs de saison de 13 à 20 degrés en général, avec 16 degrés pour Quimper et pour Paris. Autour de la Méditerranée, on ira jusqu'à 18 à 23 degrés. À noter aussi un peu de vent cet après-midi entre la Normandie, les Hauts-de-France et les Vosges, ainsi qu'entre les Bouches-du-Rhône et le sud de la Corse.
Sébastien Léas, merci à vous.
France Inter, le 13-14, Amélie Berryer.
C'est une histoire de peau, d'identité, de famille, d'amitié, de sororité. Bonjour Mayram Guisset.
Bonjour.
Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour votre livre intitulé « Sous nos peaux, un portrait de femme noire ou métisse ». Et c'est une lettre à votre fille surtout. Pourquoi vous avez voulu vous adresser à votre petite fille ?
J'ai voulu m'adresser à elle parce que je me suis rendu compte qu'on avait quelque chose en commun. Moi, dans les années 90, je trouvais que je manquais en fait de représentation de femmes noires et métisses, que ce soit dans le paysage audiovisuel, dans la littérature, dans le cinéma.
Il y en avait quelques-uns, vous citez par exemple Le Prince de Bel-Air, voilà, il y a des séries comme
exactement.
Ça, le Cosby Show.
Ouais, il y avait pas mal de séries, mais toutes américaines. Américaines et bourgeoises. Mmh. Où est-ce qu'elles étaient, ces séries ou ces films français ? Ça, je ne trouvais pas. Et je me suis dit, on est en 2025, ma fille a 9 ans. Et en termes de représentativité, la question se pose toujours. Donc j'ai eu envie de lui raconter des femmes noires et métisses, qu'elle pourrait croiser au quotidien.
Oui, c'est ça. Vous avez choisi 8 femmes, mais vous ne les avez pas choisies puissantes, flamboyantes ou fortes. Vous n'avez pas choisi des stars, en fait. Vous avez choisi des femmes qui gravitent autour de vous, en fait, que vous connaissez très bien.
Exactement, parce que mes stars, ce sont ces femmes.
C'est vrai que ce sont un peu des stars, on va y revenir.
C'est celles qui nous aident à nous construire et qui, in fine, l'aident, elles aussi, à se construire. Et moi, ce que j'avais envie de faire, c'est m'arrêter sur elles, sur le quotidien. En fait, je me disais, bah, en tant que femme noire et métisse, on peut aussi être dans la banalité. Voilà. L'ordinaire de nos vies compte aussi et raconte aussi la société. Et donc, j'avais envie de lui transmettre, en fait, tout ce pan de cette histoire-là.
C'est un portrait de la France que vous racontez, et en creux, c'est une France aussi qui peut se montrer raciste. On le voit avec la première femme que vous prenez pour modèle, c'est Aolihi, c'est une amie d'enfance, c'est ça. Vous la décrivez comme vivante, exubérante et conquérante. Elle voulait être styliste, je crois, mais elle n'a pas pu être styliste. Elle a dû changer de voie et faire autre chose de sa vie. Et elle a vécu le racisme au travail.
Voilà, elle a vécu le racisme au travail, ça a été un bouleversement pour le reste de sa vie. Et j'ai été témoin en fait de l'histoire qu'il a traversée à ce moment-là, parce que je lui parlais quotidiennement. Et je me suis sentie impuissante, et surtout je trouvais ça injuste que son histoire reste juste entre elle et moi, là en l'occurrence, que ce soit une histoire silenciée. C'est pas la seule à vivre cette histoire-là. Et je m'étais toujours dit que si un jour je pouvais raconter cette histoire-là, je le ferais. Et c'est aussi pour ça que c'est la première personne qu'on découvre dans ce récit. Elle a vécu le racisme, elle a dû même partir de Rouen pour pouvoir trouver du travail. Et à chaque fois, ça a été compliqué.
Et elle est courageuse, hein, elle prend le train tous les jours. Elle se lève à pas d'heure le matin, elle se couche très tard le soir. Vraiment, elle se donne beaucoup pour son travail, mais elle se heurte à des réflexions. On se demande vraiment, ça s'est passé il n'y a pas très longtemps, il y a une de ses supérieures, par exemple, qui lui dit, qui n'arrive pas à prononcer son prénom, qui dit « Ah ben, on va t'appeler Mélanie, c'est plus simple ».
Voilà. Ça, c'est le quotidien, ça semble banal, mais ça ne l'est pas du tout. C'est d'une extrême violence. Et malgré tout, bah, ce qu'elle dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Il faut que je travaille, donc j'avance. Voilà, donc elle a vécu tout ça. Et ce que je trouve aussi intéressant dans son récit, et pourquoi j'avais envie de la raconter, c'est qu'il y a aussi autre chose qui la définit, c'est-à-dire qu'elle a aussi cette envie de... malgré toutes ces épreuves, en fait, de continuer à avancer et de se dire « bon, bah, c'est compliqué, ça m'a fait passer par la dépression, je ne savais pas ce que c'était, j'ai découvert, je l'ai accepté, et ensuite, comment est-ce que je me reconstruis avec tout ça ?»
Une autre femme dont vous faites le portrait, c'est votre sœur aînée, Aïssat. Elle aussi, elle a traversé des choses pas très faciles, et encore plus jeune, parce que ça s'est passé dès l'école, en fait. Elle a été mise dans des classes pour enfants qui n'y arrivent pas aussi bien que les autres, les classes CLIS, les SECPA. Et aujourd'hui encore, il y a comme un traumatisme chez elle.
Oui, ça lui colle à la peau. C'est un traumatisme dont elle ne peut pas se défaire. Parce que ça lui demande énormément d'efforts de se dire que finalement ce qu'on lui a dit quand elle était petite n'est pas réel et n'est pas vrai. Pourtant son histoire, sa vie, son parcours professionnel, personnel montrent qu'elle a réussi à trouver sa place, à se faire sa place malgré tout. Mais quand on se construit, c'est là où ça rejoint aussi la question de la représentativité, c'est-à-dire que quand on ne nous montre pas qu'on peut être autre chose, qu'on est autre chose, comment est-ce qu'on s'aime et comment est-ce qu'on se fait confiance ?
Adia Ratou, elle, c'est une amie qui a voulu créer son propre média. Ça parle aussi de vous, parce que vous avez été journaliste au Parisien, au journal Le Parisien aujourd'hui en France. Mais vous dites, j'étais la seule journaliste noire, en fait. Et être journaliste et noire, c'est pas une évidence aujourd'hui en France.
Non, c'est pas une évidence. Ça ne l'était pas quand je suis arrivée au Parisien. En tout cas, je raconte aussi les réactions de mes interlocuteurs qui sont...
Racontez-le, là, vous allez faire un reportage un jour.
Oui, c'est ça.
Vous avez rendez-vous.
Je suis dans une salle d'attente et il y a un monsieur avec qui j'ai rendez-vous qui cherche la journaliste du Parisien et je suis toute seule dans la salle. Donc la secrétaire a.
Il demande, elle est où la journaliste ?
Voilà.
C'est pas possible que ce soit vous.
Il retourne voir la secrétaire, elle est dans la salle d'attente. Donc il revient, elle est où ? Je la vois pas. Je lui dis, mais c'est moi. Voilà. Donc je lui explique à la fin qu'on peut être journaliste et noir et pas. Et parallèlement, j'ai aussi toutes ces réactions
parents,
de darons, daronnes, qui moi me poussaient, me boostaient, où on me félicite systématiquement avant même d'avoir lu mes articles. Et donc je leur disais, je savais que ça racontait aussi justement un manque de diversité, comme on nous appelle, hein, dans les médias, et qui est encore aujourd'hui important, malheureusement, et sur lequel il faudrait travailler.
Il y a aussi Tata Chilani. Alors ça, c'est la génération de votre maman. Vous parler de votre maman aussi. Elles aussi, d'une autre génération, ce sont des modèles, surtout elles peut-être, je ne sais pas.
Mais c'est des femmes qui sont arrivées, qui ne se racontent pas normalement, ou très peu. Il y a eu un film d'Ambé, d'Aya Sissoko, qui racontait aussi sa mère et son parcours, mais c'est vrai qu'on ne voyait pas beaucoup de films, ou en tout cas de récits de ces femmes-là. Et raconter Tata Chilane, raconter l'amour, parce que ce livre, c'est une lettre d'amour. C'est une lettre d'amour aussi à ma fille, à la femme noire. Et Tata Chilane me raconte aussi ce que c'est que d'aimer son mari dans quelque chose que moi, je n'ai pas l'habitude de voir. Et tous ces silences aussi, ces silences autour de ce qu'elle traverse... c'était important aussi de raconter cette génération de femmes arrivées là par les maris et
elles ont suivi leur mari, elles ne voulaient pas forcément venir en France en fait.
En tout cas, elles ne se posaient pas la question, c'était fallait suivre, donc elles ont suivi. Et après, comment on fait pour se retrouver, pour se recréer ? Et en fait, là, on voit à quel point l'amitié aussi, il y a quelque chose de très fort et qui leur permet de se construire et qu'elles nous transmettent, parce que nous, on vit là-dedans. En tout cas, moi, j'ai grandi dans ça.
Le racisme de la part du personnel médical, ça, vous le racontez parce que vous l'avez vécu dans votre chair, si je peux dire, Mayram Guisset, notamment à la naissance de votre deuxième enfant, de votre petit garçon. Vous avez une cicatrice de césarienne qui vous fait horriblement mal et personne ne réagit, personne ne prend en compte cette douleur-là.
Non, personne. Personne ne se dit qu'il y a un problème. Et quand le problème est vu, on me dit que c'est de ma faute. Voilà. Donc c'est très violent. Je l'ai vécu lors de mes deux grossesses et aussi dans d'autres situations médicales.
Et en fait, vous avez un hématome
Ouais,
qui ne se voit pas sur la peau noire.
J'ai un hématome qui ne se voit pas parce que j'ai la peau noire. L'hématome est très noir, mais on me dit que j'ai rien, qu'il faut continuer, que je suis un peu une chochotte, quoi. Qu'il faut non, mais c'est bon, levez-vous. Et en plus, il fallait que je me lève pour pouvoir aller voir visiter ma fille. Et finalement, quand un jour où j'insiste vraiment parce que j'ai une douleur extrême, et donc je fais un peu le siège devant le bureau du médecin qui me prend et qui me dit mais si vous aviez la peau blanche, elle serait noire, violette, rouge. J'ai dit mais j'ai la peau noire. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération quand effectivement on a des patients, des patientes non blancs en fait. Il faut...
Parce que ça, c'est pas que votre témoignage, vous le dites dans votre livre, il y a eu des recherches là-dessus, des recherches sociologiques, c'est pas que votre cas isolé.
Il y a
isolé,
des études
en fait.
qui prouvent ça.
On soigne moins bien les femmes noires.
Oui, il y a une étude qui est sortie récemment avec des chiffres très concrets et dans le récit aussi de Sunopo, il y a d'autres femmes qui ont traversé ces problématiques-là et qui le racontent également.
Il y a aussi, vous parlez de vos peaux noires, il y a aussi celles qui veulent se blanchir la peau. Et moi, ça m'a surprise, c'est notamment votre famille au Sénégal. Votre tante, elle vous dit « tu es trop noire, faudrait te blanchir la peau ».
Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on appelle le colorisme, et c'est lié au fait que dans l'imaginaire, en fait, être plus clair de peau, c'est plus joli, c'est être belle, c'est considéré comme ça. Mais c'est un héritage. En fait, ça vient pas de nulle part. C'est un héritage aussi de ce qui a été vécu pendant l'esclavage et ce qui a été et ça a continué après avec le colonialisme, etc. Donc en fait, moi c'est aussi ça, le livre, il y a Chloé qui raconte le fait qu'elle, elle est la plus noire de son quartier, la plus noire de son école, etc., etc. Et de ce que ça implique. Mais en fait, c'est pas que c'est quelque chose, on peut pas, pour moi en tout cas, accuser. Par exemple, cette tante-là, je ne peux pas l'accuser ni lui en vouloir. Parce que c'est hérité, c'est des idées héritées de très très longue date, sur lesquelles il faut travailler en profondeur et on ne peut pas les montrer du doigt. Parce que c'est aussi une conséquence, en fait, de ce qui a été mis dans les têtes. Et aujourd'hui encore, si on en revient à la représentativité, voir une femme noire, foncée, personnage principal d'un film ou d'une pub, c'est compliqué. Il y a eu Aïssa Maïga. Voilà, moi, c'est des femmes qui ont été marquantes, justement, quand je les voyais à la télé, comme Soraya Bonali.
Il y en a eu quand même, ouais, effectivement, vous parlez de Soraya Bonali, Marie-Josée Pérec.
Marie-Josée Pérec.
qui vous fait hurler devant la télévision à la cérémonie d'ouverture des JO. Elle est là. Vous parlez donc d'un racisme vécu par beaucoup de ces femmes noires, mais toutes ces femmes dont vous faites le portrait, elles ne me paraissent pas en colère, je me trompe ou pas? Elles ne sont pas résignées non plus, mais non. J'ai l'impression qu'elles vivent avec. En fait, elles font avec. Elles sont plus fortes que ça.
En fait, oui, elles vivent avec parce qu'elles n'ont pas le choix. C'est quelque chose dont elles aimeraient évidemment qu'elles aimeraient ne pas vivre parce que c'est très compliqué. Mais elles ne peuvent pas s'arrêter. Parce que déjà, ce n'est pas que ça qui les définit. C'est aussi des femmes qui sont très singulières, qui ont chacune leur histoire, qui vont vivre de l'amour, des déceptions amoureuses.
Parle beaucoup d'amour, oui.
Ça parle beaucoup d'amour, parce que je pense que c'est aussi... on est traversé par l'amour, en fait. Même si on parle de l'amour de soi, avant de parler de l'amour des autres, et ensuite l'amour des autres. Mais c'est un amour amical, un amour familial, un amour maternel, un amour de soi, et donc ça c'est...
Il n'est pas question de règlement de compte dans votre livre.
Non, parce qu'elles sont pas... C'est pas le but en fait. Pourquoi règlement de compte? L'idée c'est de raconter des femmes et de raconter qu'elles ont voix au chapitre et que ces histoires sont tout aussi universelles que les autres. C'est très important.
Il y a 20 ans, Ziad Ebouna mourait dans un transformateur électrique à Clichy-sous-Bois. Les banlieues s'étaient alors enflammées, les jeunes se rebellaient contre une société qui leur faisait pas de place, sur fond de racisme, de violence, de la police. Vous diriez que la société, elle a changé aujourd'hui, qu'il y a moins de racisme, ou pas vraiment? Votre constat, il est assez amer quand même au début du livre.
Je peux pas dire qu'il y a moins de racisme, parce que je pense que c'est pas le cas. Et qu'aujourd'hui, on a une présence aussi, une parole qui est très, très enfin une parole raciste qui est très très libre, très entendable pour certains. Et donc ce que par exemple nous on n'a pas vécu, moi dans les années 90, il y avait autre chose, attention, ça veut pas dire que c'était mieux,
mais c'était autre
chose, c'était différent. Et donc non, on est dans une société qui sans arrêt quand même malgré tout nous, ce qu'on voit de nous d'abord, c'est notre peau noire. Voilà.
On va aller tout de suite au standard parce qu'il y a Sabine qui nous a appelé. Il nous reste quelques secondes. Bonjour Sabine.
Bonjour madame.
Vous aviez envie de réagir, je crois.
Oui, oui, oui. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais aller très, très vite. Quand j'étais à l'école d'aide-soignante, pendant un cours, il y a l'enseignante qui a pointé un doigt vers Joël qui a dit « Vous, vous serez infirmière ». Et elle même dit « J'étais la seule femme noire ». J'étais âgée en plus à l'époque, j'avais 38 ans. Elle a pointé ce même doigt vers moi en me disant « Vous, vous ne serez pas infirmière ». Bon, elle ne connaissait pas ma vie, hein. Je ne sais pas pourquoi devant tout le monde elle m'a humiliée. Et donc j'ai fait les concours avec Joël. Joël n'a pas été reçu, j'ai été reçu. Je suis devenue infirmière, j'ai travaillé au CHU des camps. Dernièrement, à 70 ans, je viens d'être finir dans un collège comme infirmière scolaire. J'ai travaillé au CHU, j'ai été pompière. Comme infirmière toujours. Et donc, l'assignation, je connais. J'ai plein de choses à dire sur l'assignation.
Ouais. L'assignation, Maïram Guisset, ouais, effectivement, elle l'a connue, Sabine, il y a un certain nombre d'années. Et elle est toujours là, en fait, cette assignation.
Elle est toujours là, ouais. Après, c'est vrai qu'il y a des espaces qui se créent, il y a des personnes qui essaient de changer ça. Et il y a eu d'autres personnes avant qui, à leur échelle, à chaque fois, ont mis des petites choses en place ou des grandes choses, visibles, pas visibles, parce que ça commence pas par nous, hein. Ça commence toujours par d'autres personnes qui ont traversé, en fait, ces épreuves-là. Et donc, voilà, il y a quelque chose, en tout cas, du refus de cette assignation.
Sous nos peaux, c'est le titre de votre livre, Maïram Guisset, paru chez Grasset il y a quelques jours. Merci beaucoup d'être venu en parler avec nous aujourd'hui. Bonne journée.
Merci pour l'invitation.
Une semaine dans leur vie, nous sommes au festival Banana Pchit de Dijon, capitale de la Bourgogne et galerie à ciel ouvert du street art partout dans la ville en ce moment. Ce festival d'art urbain a lieu ces jours-ci, un événement adopté par les habitants. Visiblement, ils y voient l'embellissement du centre-ville historique, la municipalité aussi, Victor Vasseur.
Avoir une bombe de peinture, c'est là qu'il pense. Avoir une bombe de peinture, c'est vraiment marrant, c'est avoir un gros feutre, quoi. Tu vois, t'es gamin, tu dessines sur une feuille, tu fais ton dessin, mais en fait, là, t'as une bombe et tu peux le faire à un grand dessin. Il y a un tracé qui est vraiment cool, tu peux faire des trucs hyper nets, des trucs hyper flous. C'est un pouvoir, le pouvoir de pouvoir imposer un dessin aux gens. Je m'appelle Yannick, j'ai 51 piges, je fais du graffiti depuis que j'ai 16 ans. Donc c'est vraiment un truc qui me passionne de ouf depuis un moment. Et aujourd'hui, j'en fais encore. C'est être un ado encore à 50 balais, quoi. Peindre sur un mur, c'est quand même un vrai délire. Bah, depuis que j'ai 15 ans, je monte à Paris, je regarde les murs. Et j'arrive dans une ville, je regarde les murs, notamment en train. Quand on arrive en train, les voies ferrées ont toujours été des super vecteurs de murs de graffiti, quoi. Et quand je vais dans une ville, la première chose que je fais quand j'arrive dans la ville, en fait, c'est que je me mets à la fenêtre, je me cale et je regarde le style de grave de la ville. Je regarde déjà s'il y a des graves dans cette ville et je regarde comment ça vit sur les murs avant même de poser le pied dans la ville. Donc, c'est déjà une première approche, en fait. En tout cas, pour moi, c'est devenu une approche, quoi.
J'avoue que je vais dans différentes villes pour suivre l'évolution de plusieurs grands artistes. Je trouve que c'est fabuleux ce qu'ils font. Moi, c'est Annie et j'ai 67 ans. Ça illumine une ville, ça apporte des thèmes, ça apporte une réflexion. Ça peut être sur l'amitié, ça peut être contre la guerre, on en voit beaucoup hein, finalement. Et surtout un message de paix.
Le street art va, ou l'art urbain va modifier un paysage, va changer la perception qu'on peut en avoir. C'est un art de la générosité qui s'offre dans l'espace public. Je m'appelle Christine Martin et je suis adjointe à la culture auprès de la maire de Dijon. L'art urbain, c'est pas de la déco. C'est pas de la déco parce qu'on va pas se dire, quand on entre dans une galerie ou un musée, qu'une peinture, qu'une sculpture, c'est de la déco. L'art urbain, c'est un propos d'artiste, c'est un travail d'artiste, c'est un questionnement sur l'univers ambiant, sur des faits de société, sur, je sais pas, un style particulier. Et j'aime bien ces codes, j'aime bien ces réflexions directes, ces questionnements, la manière dont les artistes vont s'installer et proposer une œuvre qui va venir modifier nos perceptions et nous questionner. D'autres s'y sont mis avant nous, on n'est pas la première des villes à le faire. les habitants-habitantes sont absolument ravis de voir ces œuvres dans l'espace public. Et le fait que désormais on a pratiquement ou presque des cheminements dans la ville qui viennent être ponctués par des œuvres soit gigantesques, soit alors plus discrètes dans leur taille, fait qu'on a une véritable déambulation possible d'œuvre en œuvre et d'artiste en artiste dans des styles qui sont somme toute relativement différents. Contrairement à un musée, on ne va pas faire l'effort entre guillemets, de rentrer à l'intérieur. Contrairement à une galerie, on ne va pas pousser la porte. Là, c'est l'art qui vient à nous dans la rue.
Une semaine dans leur vie à Dijon avec Victor Vasseur. À demain.
France Inter. Le 13-14.
À 13h50, c'est la France avec Cyril Petit du journal Ouest France. Il nous raconte ses petites histoires qui en disent. Petites histoires, Cyril, d'anniversaire de mariage.
Et je vous emmène, Amélie, à Lamballe-Armor dans les Côtes-d'Armor. Le 18 octobre, Pierre et Eliane Boulin, 94 et 93 ans, ont fêté leurs noces de platine, soit 70 ans de mariage, ce qui n'est pas rien. Dans Ouest France, ils racontent leur rencontre au bal de la couture dans leur village de Saint-Alban, puis les 18 mois de séparation par l'armée, le travail, lui, était scellé, elle a gardé des enfants, mais aussi la famille, et leur quotidien, je les cite, on est bien ensemble, on papote, on a toujours fait notre jardin et mangé nos légumes. Eliane rigole de bon cœur, on se supporte depuis 70 ans, non, je plaisante, on a eu de petites querelles, on n'est pas toujours d'accord, bien sûr, mais ça va. Et Pierre de questionner, il y en a beaucoup des couples comme nous à fêter leurs noces de platine.
Et que lui répondez-vous, Cyril ?
Eh bien que malheureusement, je n'en sais rien. Aucune statistique n'existe, mais une chose est certaine. Chaque jour, la presse locale se fait l'écho de ces anniversaires de mariage et elle en profite pour nous raconter les parcours de ces couples ayant traversé les décennies alors qu'il y a de plus en plus de divorces aujourd'hui et nous proposant de touchantes tranches d'histoire contemporaine et nous rappelant le rôle de la famille.
Alors c'est peut-être le moment, Cyril, d'un quiz sur le calendrier des noces.
Allez, on révise, Amélie. Il y a évidemment les noces d'or, ses 50 ans. Coucou à Colette et Jean-Pierre Goré à Carpentras dans le Vaucluse qui se sont déguisés en hippies pour l'occasion. Il y a les noces de diamant, ses 60 ans. Joyeux anniversaire à Josette et François Marcassu qui ont fêté ça avec 41 personnes à Saint-Radégonde. Dans l'Aveyron, il y a celle de platine, 70 ans, on l'a vu. Et, mais elles sont bien plus rares, celle de chêne pour 80 années de mariage.
Ouais, pas mal. Et quel est le record en France ?
Eh bien, selon le site spécialisé sur les grands centenaires français qui compile et vérifie les données de longévité, le mariage français le plus long a duré 83 ans et 131 jours. Il a été établi par Marcel et Berthe Brouard à Saint-Élif, 800 habitants en Eure-et-Loire. Si maintenant on bat des records, alors avait réagi avec malice Berthe dans l'hebdomadaire régional L'Action L'Écho. Les deux amoureux sont décédés en 2022 et 2023 à 107 et 101 ans après avoir célébré leurs noces. De vanille, c'est ainsi qu'on appelle les 83 ans de mariage.
Et ces anniversaires, Cyril, sont souvent synonymes d'événements municipaux.
Grosse fête à venir le 15 novembre à Istres, dans les Bouches-du-Rhône. Comme chaque année, la ville honorera celles et ceux comptant 50 ans de mariage en 2025. Ce sera la traditionnelle cérémonie des noces d'or. Et puis, certains se redisent même oui, Amélie. Mi-octobre, à Tavel, dans le Gard, Michel et Roland Martin sont repassés devant le maire. 70 ans après, ils ont reçu la médaille de la ville, nous apprend Midi Libre, et ont même signé un acte de renouvellement des vœux. Alors, ce renouvellement des vœux consiste en une cérémonie similaire à celle de mariage, au cours de laquelle les époux réitèrent leurs engagements. Mais il n'a ni cadre légal, ni conséquences juridiques. C'est un engagement moral, purement privé, lui aussi renouvelable. Ainsi, à Saint-Germain-du-Pinel, Madeleine et Jean-Henri se sont déjà dit oui, Amélie, pour la troisième fois, pour leur mariage en 65, pour leur noce d'or en 2015 et pour celle de diamant le 20 septembre dernier. Alors, terminons par ce chiffre. Selon l'INSEE, 247 000 mariages ont été célébrés en France en 2024. Parmi ceux-ci, peut-être des noces d'eau. C'est ainsi qu'on célèbre 100 ans de mariage.
Les noces d'eau, ça nous va bien. Merci Cyril Petit du quotidien Ouest France. De C'est la France à C'est une chanson. Et c'est un photographe que l'on retrouve à votre micro aujourd'hui, Frédéric Pommier. Il s'appelle Jean-Luc Bertini.
Il vient de faire paraître Contemplations italiennes, plongées dans les trésors sculptés des cimetières transalpins. Ces photos très belles sont accompagnées d'un texte de Pierre Michon. Et c'est de Nina Simone que Jean-Luc Bertini a souhaité parler. Une chanteuse qu'il peut difficilement écouter sans être submergé par l'émotion.
Elle rentre, je crois, surtout dans ma vie en 2008. À la mort de ma mère. C'est-à-dire que je fais un voyage en 2008 et ce voyage, j'écoute en boucle un album qui s'appelle Pastel Blues. Il y a d'autres disques que j'écoute, mais ce disque-là m'émeut. Et après, je ne cesse de l'écouter toutes ces années.
Ce voyage, c'était pour aller d'où à où ?
En fait, j'avais commencé en 2007 à voyager aux États-Unis pour ce projet qui a donné Amérique des Écrivains en Liberté. L'année suivante, je décide de retourner dans ce pays pour photographier, mais tout seul cette fois-ci, où il n'est pas question d'écrivain. Je pars 2 mois pour un parcours improvisé. J'arrive à New York, je crois, et je fais une grande balade jusqu'au Montana. Mais une semaine avant ce voyage, ma mère décède. Et je maintiens ce voyage et je suis évidemment un enfant très triste au volant de cette voiture. Et Nina Simone, je dirais que c'est à ce moment-là vraiment qu'elle rentre dans ma vie. Oh, cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me around the rock. Please hide me around the rock.
Alors Frédéric, ce morceau a pour titre Cinnamon et c'est au départ une chanson de Negro Spiritual.
Une chanson reprise par de très nombreux artistes, mais c'est vraiment la version de Nina Simone. Version enregistrée en 1965 qui bouleverse Jean-Luc Bertini.
À la vérité, quand j'écoute cette chanson, je crois que je ne comprends même pas les paroles. J'entends surtout une voix... Une manière de chanter, une manière de jouer, une rage, tout en ayant une incroyable douceur. Bon, il est question de Dieu, mais je crois vraiment que je n'entends pas les paroles. Je ne les entends pas. C'est bien plus tard, quand je me mets à les écouter et à les traduire, si on veut, que je me dis, mais au fond, elle est très étrange, cette chanson. Il est question d'un pécheur qui demande à Dieu de le cacher. Et il y a une part de sacré qui me touche. Je ne sais pas de quel côté dans ma vie, c'est sans doute lié, évidemment, comme je disais, la mort de ma mère, mais pas que.
Cette chanson, c'est une chanson qui fait une dizaine de minutes.
Oui, c'est ça.
C'est un très long morceau.
Oui.
Et on a un peu l'impression que c'est un morceau qui avance aussi.
C'est vrai que c'est une chanson dont on a l'impression qu'elle va s'arrêter plusieurs fois. Et ça remonte, et ça reprend. Et sa version est assez dingue. Parce que j'ai écouté plusieurs versions après, et j'avoue que... La sienne est incroyable. Ça vient de la voix de Nina, je crois. Elle avait une voix si forte, si grave en même temps. J'entends la rage de cette chanson, la colère et la grande tristesse. Quelque chose qu'elle n'arrive pas à exprimer.
Est-ce que vous avez l'impression que vous, quand vous l'écoutiez, quelques jours seulement après la mort de votre mère, c'est une chanson qui surlignait cette tristesse que vous aviez, ou qu'elle l'apaisait aussi ?
Je crois qu'elle l'apaisait. D'ailleurs, elle continue de m'apaiser. Et les larmes qu'elle provoque souvent, elles en sont la preuve. Oui. Oui, parce que je l'écoute toujours en pleurant. Oui, je ne peux pas l'écouter sans pleurer. C'est bizarre, et c'est comme ça. C'est très étrange. Je crois que ça touche tout simplement la condition d'homme. Notre pauvre condition d'homme.
Elle touche le plus profond.
Indeed.
Nina Simone, Cinnamon, c'était donc Frédéric, le choix et l'émotion du photographe Jean-Luc Bertini.
Jean-Luc Bertini qui vient de faire paraître Contemplations italiennes, c'est publié chez Robert Laffont, le Tripode.
Merci Frédéric Pommier. À suivre les informations de 14h, puis vous retrouverez au fil de l'histoire Stéphanie Duncan.